Après la mort, troisième partie. Chapitre 15. Aratov se coucha de bonne heure, quoique sans grande envie de dormir. La tension de ses nerfs lui causait une lassitude plus pénible que la fatigue purement physique du voyage. Il éteignit la lumière. Une obscurité profonde se fit dans la chambre. Il restait couché, les yeux fermés, sans pouvoir dormir. Tout à coup, il lui sembla qu'on lui murmurait à l'oreille. « C'est le bruit du sang, ce sont les battements du cœur, » pensa-t-il. Mais voici que le murmure devient des mots. Quelqu'un parle en russe, avec hâte, avec l'accent d'une plainte, mais de façon inintelligible. Aratov ne peut saisir aucune parole distincte, mais c'est la voix de Clara. Aratov ouvrit les yeux, se souleva, s'accouda. La voix devint plus faible, mais elle continuait sa plainte, hâtive et confuse, et c'était indubitablement la voix de Clara. De légers arpèges parcoururent rapidement les touches du piano, puis la voix reprit, plus forte maintenant. Des sons répétés suivirent toujours plus distincts, puis enfin se détachèrent des paroles. « Des roses, des roses, des roses !»« Des roses ?» murmura Aratov. « Ah oui, les roses que j'ai vues sur la tête de la femme du rêve !»«
Des roses »
entendit-il de nouveau. « Est-ce toi ?» demanda Aratov toujours à voix basse. La voix se tut. Aratov attendit quelque temps, puis laissa retomber sa tête sur l'oreiller. « Une hallucination de l'ouïe » pensa-t-il. « Mais si pourtant elle était ici, tout près de moi, si je la voyais, m'effraierais-je ou me réjouirais-je ? Mais pourquoi m'effrayer ? Pourquoi me réjouir ? Serait-ce parce que j'y verrais une preuve qu'il y a un autre monde, que l'âme est immortelle ? Mais si même je voyais quelque chose, cela pourrait être tout aussi bien une hallucination de la vue. » Il alluma pourtant la lumière, parcourut d'un rapide regard, non sans quelque terreur, toute la chambre. Il n'y trouva rien d'extraordinaire. Il se leva, s'approcha du stéréoscope. Toujours cette poupée grise avec ses yeux détournés. Un sentiment de dépit remplaça celui de terreur chez Aratov. Il avait l'air d'être trompé dans son attente, et cette attente même lui parut ridicule. « C'est absurde à la fin » murmura-t-il en se recouchant et en soufflant la bougie. De nouveau, l'obscurité profonde. Aratov était cette fois bien décidé à s'endormir. Mais une nouvelle impression surgit. Il lui sembla que quelqu'un se tenait au milieu de la chambre et respirait faiblement et longuement. Il se retourna brusquement, ouvrit les yeux. Mais que pouvait-on distinguer dans ces ténèbres ? Il se mit à chercher à tâtons une allumette, et tout à coup, il lui sembla qu'un grand coup de vent, silencieux et mou, avait traversé toute la chambre, l'avait traversé lui-même, et les mots « C'est moi !» retentirent distinctement. « C'est moi ! C'est moi !» Quelques instants se passèrent avant qu'il parvînt à rallumer sa bougie. Il n'y avait personne dans la chambre, et il n'entendait plus que le battement précipité de son cœur. Il but une gorgée d'eau et resta immobile, la tête sur la main. Il attendait. Il s'était dit « Je veux attendre. Ou ce ne sont que des folies, ou elle est ici. Elle ne viendra pas jouer avec moi comme le chat avec la souris. » Il attendit longtemps, si longtemps que la main qui soutenait sa tête en fut tout engourdie. Ses yeux se fermaient. Il les rouvrait de nouveau, ou du moins il lui semblait qu'il les rouvrait. Sa bougie était presque éteinte, la chambre à demi assombrie, et dans cette demi-obscurité, la porte blanchissait confusément en taches allongées. Voici que cette tache glisse, disparaît, et à sa place, sur le seuil, apparaît une figure féminine. Aratov regarde fixement. « Ah, c'est Clara, cette fois !» Elle le regarde aussi, fixement. Elle a sa couronne de roses sur la tête et elle marche droit à lui. Un grand frisson secoue Aratov. Il se soulève. Devant lui se tient sa tante en camisole blanche, un bonnet de nuit sur la tête et un nœud de ruban couleur de feu sur le bonnet. « Platocha ! » murmura-t-il avec difficulté. « C'est vous ?»«
C'est moi, Yasha !»
répondit Platonida. « Pourquoi êtes-vous venu ?»«
Mais c'est toi qui m'as réveillé. Tu as commencé par gémir, et puis tout à coup tu as crié « Sauvez-moi ! Au secours !»«
J'ai crié, moi ?»«
Eh oui, toi, et encore d'une voix si enrouée. Au secours !»
Je me suis dit, Seigneur, ne serait-il pas malade? Et je suis venue.
Mais tu te portes bien?
Parfaitement.
Alors tu as fait quelques mauvais rêves. Veux-tu que je brûle un peu d'encens?
Aratov jeta un regard sur sa tante et partit d'un éclat de rire. La figure de la bonne vieille dans ce bonnet de nuit, avec ce nœud bizarre au-dessus de son visage long et effrayé, était d'un effet très comique. Tout ce surnaturel qui entourait Aratov, qui l'étouffait, disparut en un clin d'œil.
« Non, Platocha, ma petite colombe, je n'en ai pas besoin. Pardonnez-moi, je vous prie, de vous avoir effrayée. Dormez tranquillement, je ferai de même. »
Platonida resta quelque temps encore, montra du doigt la bougie, grommela.
« Pourquoi ne l'as-tu pas éteinte? Un malheur est si vite arrivé. »
Et en s'en allant, elle ne put s'empêcher de faire trois signes de croix dans la direction de son neveu. Aratov s'endormit immédiatement et dormit très bien jusqu'au matin. Il se leva dans une excellente disposition d'humeur, quoiqu'il lui semblât qu'au fond il regrettait quelque chose. Il se sentait léger et libre. « Quelle folie romantique !» se disait-il à lui-même en souriant. Il ne regarda pas une seule fois ni le stéréoscope, ni le feuillet arraché. Et aussitôt après le déjeuner, il alla chez Kupfer. Il ne se rendait pas bien clairement compte de ce qui l'y poussait. Chapitre 16. Aratov trouva son ami à la maison. Il bavarda un peu avec lui, lui fit des reproches de les avoir oubliés, lui et sa tante, écouta quelques nouvelles de la « femme d'or », de la princesse, dont lui, Kupfer, venait de recevoir de Jaroslav une calotte en drap d'or avec de la broderie en écailles de poisson. Puis, s'asseyant devant lui, il le regarda droit dans les yeux et lui dit qu'il avait été à Kazan.
« Tu as été à Kazan? Pourquoi faire ?»«
Mais pour rassembler des renseignements sur cette Clara. »
« Sur celle qui s'est empoisonnée ?»«
Oui. » Kupfer hocha la tête.
« Voyez-vous ce petit innocent du bon Dieu ? Il s'est fendu de 1000 verstes, aller et retour. Pourquoi faire ? Si au moins il y avait eu là un intérêt féminin. Oh alors, dans ce cas, je comprends toutes les folies. »
Ici, Kupfer s'ébouriffa les cheveux.
« Mais pour rassembler des matériaux, comme vous dites, vous autres savants, serviteurs, il existe pour cela des bureaux de statistiques.
Eh bien, tu as fait la connaissance de la vieille, de la sœur? Une admirable jeune fille, n'est-ce pas ?»«
Admirable, en effet, » dit Aratov. « Elle m'a communiqué beaucoup de choses curieuses. »
« T'a-t-elle dit comment Clara s'est empoisonnée ?»«
Comment ?»
« Oui, de quelle façon ?»«
Non, elle était encore si affligée que je n'ai pas trop osé la questionner. Y avait-il quelque chose de particulier ?»«
Mais certainement. Imagine-toi, elle devait jouer ce jour même au théâtre. Et elle a joué. Elle avait emporté avec elle un flacon de poison. Elle l'a bu avant le premier acte, et elle a joué ainsi tout ce premier acte avec du poison dans le corps. » Quelle force de volonté! Quel caractère! Et l'on dit que jamais encore elle n'avait rendu son rôle avec autant de chaleur, autant de sentiment. Le public ne soupçonne rien, applaudit, rappelle, et dès que le rideau tombe, elle aussi, paf, sur la scène. des convulsions, et une heure après, plus personne. Mais est-ce que je ne t'ai pas raconté tout cela? Ça se trouvait dans les journaux. »
Les mains d'Aratov devinrent tout à coup froides, et quelque chose se mit à lui trembler dans la poitrine.
« Non, tu ne me l'as pas raconté, » dit-il enfin. « Et tu ne sais pas quelle était la pièce ?»
Kupfer se mit à rêver. « On me l'a bien nommée, cette pièce. Il y paraît une jeune fille qu'on a trompée ou qui s'est trompée. Un drame, en tout cas. Clara était née pour les rôles dramatiques, rien que son extérieur. « Mais où vas-tu donc ?» s'interrompit Kupfer, voyant qu'Aratov prenait son bonnet. « Je ne me sens pas très bien, » répondit Aratov. « Adieu, je reviendrai une autre fois. »
Kupfer l'arrêta par le bras et l'examina de près.
« Quel homme nerveux tu fais, frère! Regarde-toi un peu, tu es jaune comme de la terre glaise. »«
Je ne suis pas bien, » répéta Aratov.
Et se débarrassant de Kupfer, il partit. Ce n'est que dans cet instant qu'il comprit le motif de sa visite à Kupfer. C'était pour parler encore de Clara, de l'infortunée, de l'insensée Clara. Pourtant, de retour à la maison, il redevint calme. Les circonstances qui avaient accompagné la mort de Clara avaient commencé par l'ébranler profondément. Mais ensuite, ce jeu au théâtre avec ce poison dans le corps, selon l'expression de Kupfer, lui sembla une pose monstrueuse, une bravade. Il tâcha même de ne plus y penser, craignant d'exciter en lui-même un sentiment pareil au dégoût. Pendant le dîner avec Platocha, il se souvint de l'apparition nocturne de sa tante, de cette camisole écourtée, de ce bonnet de nuit avec son ruban couleur de feu, de toute cette figure comique à la vue de laquelle, comme au coup de sifflet du machiniste dans une féerie, toutes ses visions s'étaient écroulées en poussière. Il fit même répéter à sa tante comment son cri l'avait effrayée, comment elle avait bondi hors de son lit, comment, pendant quelque temps, elle n'avait pu trouver ni sa porte ni celle d'Aratov, etc. Le soir, il joua avec elle aux cartes et rentra dans sa chambre, un peu plus triste, mais aussi calme qu'auparavant. Aratov ne pensait pas à la nuit qui approchait. Il était sûr qu'il la passerait on ne peut mieux. La pensée de Clara lui revenait bien par moments, mais il la chassait aussitôt. Il la chassait dès qu'il se rappelait la façon tapageuse dont elle s'était donné la mort. Cette laideur faisait du tort aux autres souvenirs qu'elle avait laissés. Ayant jeté en passant un regard sur le stéréoscope, il lui sembla même que si elle détournait les yeux, c'était par honte. Le portrait de la mère d'Aratov était accroché juste au-dessus du stéréoscope. Il le descendit de son clou, l'examina longuement, l'embrassa et l'enferma soigneusement dans un tiroir de sa table. Pourquoi ? Est-ce parce que ce portrait ne devait pas se trouver dans le voisinage de l'autre ? Ou pour quelle raison ?
Il n'aurait pu le dire, mais le portrait de sa mère réveilla en lui le souvenir de son père, qu'il avait vu mourant dans cette même chambre, dans ce même lit.
« Et toi, père, que penses-tu de tout ceci ? » demanda-t-il. « Tu dois tout comprendre. Toi-même tu as cru à ce monde des esprits, si prompt à s'ingérer dans les choses humaines. Donne-moi un conseil. »
Il m'aurait donné le conseil de jeter de côté toutes ces folies, ajouta-t-il à haute voix, et il prit un livre. Mais il ne put lire longtemps. Et sentant une sorte d'apesantissement dans tout son être, il se coucha plus tôt que d'habitude, bien persuadé qu'il allait s'endormir sur le champ. Ce qui arriva. Mais son attente d'une nuit tranquille ne se réalisa pourtant point.
Chapitre 18. Minuit n'avait pas fini de sonner qu'il eut un rêve étrange et menaçant. Il se voit dans une belle maison de campagne dont il est le propriétaire. Depuis peu, il a acheté cette maison et le domaine environnant. Il est riche et pourtant il se dit toujours « C'est très bien, mais cela finira mal. » Autour de lui frétille un petit homme, son intendant, qui ne cesse de rire, de saluer, et qui veut lui montrer comme tout dans la maison et dans le domaine est en bon ordre. « Daignez venir, venez !» répète-t-il en faisant « hi hi » entre chaque mot. « Voyez comme tout est admirable chez vous. Voyez ces chevaux, quelles superbes bêtes !» Et Aratov voit une rangée d'énormes chevaux dans des stalles. Leurs crinières, leurs queues sont magnifiques. Mais dès qu'Aratov passe devant eux, toutes les bêtes se tournent à la fois de son côté et lui montrent de longues dents ricanantes. « C'est bien, » pensa Aratov, « mais le mal va venir. »« Daignez passer dans le jardin, » répète l'obséquieux intendant. « Voyez quelles belles pommes vous avez !» En effet, les pommes sont très belles, rondes et rouges, mais dès qu'Aratov les regarde, elles se flétrissent et tombent. « Le mal va venir, » pense Aratov. « Et voici le lac, » continue l'intendant. « Voici le lac, regardez comme il est bleu et uni. Et voici un petit bateau en or. Désirez-vous faire une promenade ? Entrez dedans, il nagera de lui-même. »« Je n'y entrerai pas, » pensa Aratov. « Le mal va venir. » Et pourtant il entre, il s'assied. Au fond du bateau se tient accroupi un petit être, semblable à un singe. Il tient dans sa petite main un flacon avec une liqueur brune. « Ne vous inquiétez nullement !» lui crie du rivage l'intendant. « Ce n'est rien, ce n'est que la mort. Bon voyage !» Le bateau part comme une flèche, et voilà que tout à coup fond un tourbillon, non comme celui de la veille, silencieux et mou, mais noir, hurlant, terrible. Tout se confond alentour, et au milieu de ce vertige de ténèbres, il voit Clara, en costume de théâtre, qui approche de ses propres lèvres un flacon de poison. Des bravos lointains éclatent et une voix brutale crie à l'oreille d'Aratov « Ah, tu as cru que tout finirait en comédie ? Non, c'est une tragédie !» Tout est perdu, Aratov se réveille. Il ne fait pas sombre dans la chambre. Une faible lueur glisse, on ne sait d'où, et éclaire tous les objets, tristes et immobiles. Aratov ne se rend pas compte d'où vient cette lumière. Il ne sent qu'une chose. Clara est ici, dans cette chambre. Il en a la conscience absolue. Il est de nouveau, et pour toujours, en son pouvoir. Et de ses lèvres s'arrache le cri. « Clara, tu es ici ?» Dans la lueur immobile de la chambre, s'entend distinctement le mot « oui ». Aratov répète d'un souffle éteint la question. « Oui ». « Alors je veux te voir !» s'écrie Aratov, et il saute hors de son lit. Il resta quelque temps à la même place, les pieds nus sur le plancher froid, ses regards erraient. « Où donc ?»« Où ?» murmuraient ses lèvres tremblantes. Rien à voir, rien à entendre. Il regarda avec attention tout alentour et vit que la faible lumière qui remplissait la chambre venait d'une veilleuse entourée d'une feuille de papier posée dans un coin. C'est probablement Platocha qui l'a mise là. Il sentit même une odeur d'encens. Encore l'attente. Il s'habilla à la hâte, car il ne pouvait penser à rester au lit. Puis il s'arrêta au milieu de la chambre, croisa les bras. La sensation de la présence de Clara était en lui plus forte que jamais, et il se mit à parler d'une voix basse, mais avec une lenteur solennelle, ainsi que l'on prononce les conjurations. « Clara, ainsi commença-t-il, si tu es réellement ici, si tu me vois, si tu m'entends, apparais. Si ce pouvoir que je sens sur moi est ton pouvoir, apparaît. Si tu comprends combien est amer en moi le remords de ne t'avoir pas comprise, de t'avoir repoussée, apparaît. Si ce que je viens d'entendre est en effet ta voix, si ce sentiment qui s'est emparé de moi est l'amour, si tu sais maintenant que je t'aime, moi,
qui jusqu'à présent n'ai aimé ni connu aucune femme, moi, vierge comme toi, si tu sais que même après la mort je me suis mis à t'aimer passionnément, éperdument, si tu ne veux pas que je devienne fou, apparais, apparais, Clara. » Aratov avait à peine eu le temps de prononcer cette dernière phrase qu'il sentit quelqu'un s'approcher rapidement de lui par derrière, comme le jour de l'entrevue, et lui poser la main sur l'épaule. Il se retourna et ne vit personne. Mais la certitude de la présence de Clara était devenue si intense, si indubitable, qu'il se retourna de nouveau. Qu'est-ce ? Dans son fauteuil, à deux pas de lui, se tient assise une femme, tout en noir, la tête détournée et penchée, comme dans le stéréoscope. C'est elle ? C'est Clara ? Mais quel visage triste et sévère ! Aratov se mit lentement à genoux. Oui, il avait eu raison l'autre jour. Il n'éprouvait ni effroi ni plaisir, pas même de l'étonnement. Son cœur même battait moins vite. Il n'y avait en lui qu'un seul sentiment. Ah, enfin ! Enfin ! Clara, reprit-il d'une voix faible mais égale, pourquoi ne me regardes-tu pas ? Je sais que c'est toi. Et pourtant je puis encore croire que c'est mon imagination qui a créé une image pareille à celle-là. » Et il désignait de la main le stéréoscope. « Prouve-moi que c'est toi. Tourne-toi vers moi. Regarde-moi, Clara. » La main de Clara se souleva lentement et retomba de nouveau. « Tes yeux ! Tes yeux !» murmura Aratov. Et la tête de Clara se tourna lentement. Ses paupières baissées se soulevèrent et deux prunelles sombres se fixèrent sur Aratov. Il se rejeta en arrière. « Ah !» fit-il avec un long frémissement. Les yeux de Clara restaient fixés sur lui et ses traits conservaient la même expression grave, rêveuse, presque mécontente. C'est avec cette même expression qu'elle avait paru sur l'estrade le jour de la matinée musicale, avant d'avoir aperçu Aratov. Mais, comme cette fois aussi, elle rougit tout à coup, ses traits s'animèrent, son regard s'alluma, et un sourire heureux, un sourire de triomphe, éclaira ses lèvres. « Tu as vaincu, et je suis pardonnée !» cria Aratov. « Prends-moi !» car tu m'as pris, je suis à toi, et tu es mienne. » Elle allait s'élancer vers lui, mais c'est lui qui se précipita sur elle. Il voulait embrasser ses lèvres qui souriaient, ses lèvres triomphantes. Et il les embrassa. Il sentit leur attouchement brûlant. Il sentit même la fraîcheur humide de ses dents blanches. Et un cri déchirant, un cri de volupté mourante retentit dans la chambre subitement obscure. Accouru à ce cri, Platocha le trouva sans connaissance. Il était encore à genoux, sa tête était tombée sur le fauteuil, ses deux bras étendus pendaient inertes. Son visage pâle respirait un bonheur inexprimable. Platonida tomba à côté de lui, le prit à bras-le-corps, ses pauvres bras faibles essayèrent de le soulever. « Yasha, mon petit Yasha, mon pauvre petit Yachonné !» répétait-elle. Il ne bougeait pas. Alors Platonida se mit à crier comme une folle. La servante accourut. À elles deux, elles le soulevèrent tant bien que mal, l'assirent, se mirent à l'asperger d'eau où elles avaient trempé une sainte image. Il revint à lui. Mais aux questions de la tante, il ne répondait que par des sourires, avec une expression si béate qu'elle n'en fut que plus effrayée, et elle se mit à faire des signes de croix, tantôt sur lui, tantôt sur elle-même. Aratov finit par écarter sa main, et gardant cette même expression sur son visage, prononça « Mais qu'avez-vous donc, tante ? Toi, qu'as-tu, Yashinka ? « Moi, je suis heureux. Heureux, Platocha, voilà ce que j'ai. Et maintenant, je désire dormir. » Il voulut se lever, mais il éprouvait une si grande faiblesse dans les jambes et dans tout son corps que sans l'aide de sa tante et de la servante, il lui eût été impossible de se déshabiller. Une fois couché, il s'endormit aussitôt. Son visage conservait toujours la même expression, exaltée et bien heureuse, mais ce visage était bien pâle. Chapitre 19. Le lendemain matin, quand Platonida entra dans la chambre, elle le trouva dans la même position. Sa faiblesse n'avait pas diminué, et il préféra rester au lit. La pâleur de son visage déplaisait surtout à Platonida. « Mon Dieu, Seigneur !» pensa-t-elle. « Pas une goutte de sang aux joues, et il refuse du bouillon. Le voilà, là, couché, il ne fait que sourire et assurer qu'il se porte tout à fait bien. Mon Dieu, qu'est-ce que cela signifie ?» Aratov refusa également de déjeuner. « Qu'est-ce, Yasha ? » demanda Platonida. « As-tu l'intention de rester couché comme ça tout le jour ?»« Pourquoi pas ?» répondit Aratov d'un air caressant. Cet air caressant déplut encore à Platonida. Aratov avait l'air d'un homme qui vient d'apprendre un grand secret, très heureux pour lui et qu'il cache avec un soin jaloux. Il attendait la nuit, non avec impatience, avec curiosité. « Quoi encore ?» se demandait-il. « Qu'est-ce qui peut encore arriver ?» Il avait complètement cessé de s'étonner. Il ne doutait plus qu'il fût entré en communication avec l'âme de Clara. Il doutait aussi peu de leur amour mutuel. Mais quel peut être le résultat d'un pareil amour? Il se rappelait ce baiser, et une sorte de froid, rapide et doux, lui parcourait tous les membres. « Roméo et Juliette n'ont pas échangé un plus beau baiser, » pensait-il. Mais une autre fois, je saurai mieux résister. Elle viendra à moi avec une couronne de petites roses sur ses cheveux noirs. Mais plus loin, ensuite, nous ne pouvons cependant pas vivre ensemble. Il faudra donc que je meure pour être avec elle. N'est-ce pas pour cela qu'elle est venue? Et n'est-ce pas ainsi qu'elle veut me prendre? Eh bien quoi? Mourir? La mort ne m'effraie nullement. Elle ne peut pas me détruire. Où est, mort, ton aiguillon? Au contraire, ce n'est que comme cela, et là, que je serai heureux, comme je ne l'ai jamais été dans ma vie, comme elle non plus ne l'a jamais été. Car nous sommes vierges tous les deux. Oh, ce baiser! Il y a des gens, pensait-il encore, qui, s'ils apprenaient tout ceci, me prendraient pour un fou. Si ces gens savaient quelle sérénité règne à présent dans mon esprit. Et il souriait de nouveau. Platonida entrait sans cesse dans la chambre d'Aratov, ne le tourmentait pas par des questions, le regardait, murmurait, soupirait, et s'en allait bien vite pour revenir aussitôt. Mais le voilà qui refuse aussi le dîner. Cela devenait grave. Elle alla chercher le médecin du quartier, en qui on avait confiance, par la seule raison qu'il ne buvait pas d'eau-de-vie et qu'il avait épousé une Allemande. Aratov fut étonné lorsqu'elle le lui amena. Mais Platonida se mit à supplier si instamment son Yatchinka de permettre à Paramon Paramonitch, ainsi se nommait le médecin, de le visiter, ne fût-ce que pour elle, qu'Aratov consentit. Paramon Paramonitch lui tâta le pouls, lui regarda la langue, posa quelques questions, et finit par déclarer qu'il était nécessaire de procéder à une auscultation. Aratov était dans une disposition d'humeur si conciliante qu'il y consentit également. Paramon Paramonitch lui découvrit avec délicatesse la poitrine, la frappa, y appliqua son oreille, fit de « hum, hum » bien senti, et prescrivit des gouttes et une potion. Il conseilla surtout aux malades de rester tranquilles et de se garder de toute émotion forte. « Tu t'y prends trop tard, mon bon !» pensa Aratov. « Voyons, Kayasha !» demanda Platonida sur le seuil de la porte, en fourrant un assignat de 3 roubles dans la main de Paramon Paramonitch. Le médecin du quartier, qui, comme tous nos docteurs d'aujourd'hui, surtout ceux qui portent l'uniforme, aimait à briller par des termes scientifiques, lui déclara que le neveu offrait tous les symptômes dioptriques d'une névrose cardialgique, et que, en outre, il y avait de la fébrilité. « Parle plus simplement, petit père, » dit Platonida avec sévérité. « Ne nous effraie pas avec ton latin, tu n'es pas chez un apothicaire. » « Le cœur n'est pas en ordre, » se hâta d'expliquer le médecin. « Et il y a aussi un peu de fièvre. » Puis il répéta sa recommandation de modération et de tranquillité. « Mais il n'y a pas de danger, » demanda avec la même sévérité Platonida. « Et ne te refourre pas dans ton latin. » « Jusqu'à présent, il n'y en a pas. » Platonida resta tout interdite. Elle envoya chercher les médicaments, mais malgré toutes ses prières, Aratov refusa de les prendre. Il refusa même le thé pectoral. « Pourquoi vous agitez-vous ainsi, ma petite colombe ?» lui disait-il. « Je vous jure que je suis à présent l'homme le plus heureux et le mieux portant de toute la terre. » Platonida ne faisait que hocher la tête. Vers le soir, il eut un peu de chaleur, mais il exigea qu'elle ne restât pas dans la chambre et qu'elle allât dormir chez elle. Platonida obéit, mais ne se déshabilla ni ne se coucha. Assise dans son fauteuil, elle tendait l'oreille et murmurait ses prières. Elle allait pourtant s'endormir quand un cri terrible, un cri déchirant, la réveilla en sursaut. Elle se précipita dans la chambre d'Aratov et, comme la veille, le trouva par terre, évanoui. Mais il ne revint pas à lui comme la veille, quoi qu'on fît. Un transport au cerveau se déclara, compliqué d'une inflammation du cœur. Quelques jours plus tard, il était mort. Une circonstance étrange accompagna ce second évanouissement. Quand on le coucha dans son lit, on trouva dans sa main droite fermée une petite boucle de cheveux noirs de femme. D'où venait cette boucle de cheveux ? Anna Semyonovna avait bien une pareille boucle qui lui était restée de Clara. Mais pourquoi aurait-elle donné à Aratov une chose qui lui était si précieuse ? L'avait-elle mise par mégarde dans le journal de sa sœur et l'y avait-elle oubliée ? Dans son délire, Aratov se donnait le nom de Roméo après l'empoisonnement. Il parlait de son mariage accompli et réalisé, de la jouissance suprême qu'il connaissait à présent. Bien affreux fut pour la pauvre Platosha le moment où Aratov, revenu à lui pour un instant et l'ayant aperçu auprès de son lit, lui dit « Tante, pourquoi pleures-tu ? De ce que je dois mourir ? Ne sais-tu donc pas que l'amour est plus fort que la mort ? Ce n'est pas pleurer, c'est se réjouir qu'il faut, se réjouir comme je le fais maintenant. » Et de nouveau, sur le visage du mourant rayonna ce sourire de béatitude qui resserrait si douloureusement le cœur de la pauvre vieille.